Europe 1. On de la raconte la suite du récit.
Le commissaire lui demande si elle a conservé les lettres. Malheureusement, elle les a déchirées et jetées. Bien, maintenant, il faut aller vérifier ça auprès du docteur Cope. Mais enfin, vous voyez bien que ces ordonnances sont des fausses, que ça n'est pas mon écriture. Enfin, vous voyez bien que Madame Canaby les a rédigées elle-même, ces ordonnances. Et elle veut me faire porter le chapeau, alors que je n'y suis pour rien. Et pourquoi aurait-elle fait cela? Mais enfin, au même moment, son mari était gravement malade. Ça paraît clair. Elle l'a empoisonné avec les substances obtenues par une fausse ordonnance à mon nom. Et pourquoi vous accuse-t-elle vous? Eh bien, parce que c'est une manipulatrice. À ce moment-là, le juge décide de s'intéresser à Pierre Rabot. Vous savez, l'ami d'Émile, le seul qui, outre sa femme et sa mère, était autorisé à entrer dans la chambre. Henriette dit que c'est l'un de ses amis d'enfance et que son mari l'apprécie beaucoup. Lui aussi peut être l'empoisonneur ou alors un complice d'Henriette. Quelle est la vraie nature de vos relations avec Madame Canaby, Monsieur Rabot? De la sympathie, une affection, je dirais, quasi fraternelle. Et j'ai aussi une grande amitié pour Émile. Êtes-vous certain que vous n'avez pas une liaison avec Madame Canaby? Ah, mais totalement. Qu'est-ce que vous allez imaginer?
Ils m'ont, sans doute. Tout un tas de personnes affirment qu'ils sont amants.
Et le concernant, l'un des médecins venus voir Émile pendant sa maladie raconte une scène étonnante.
Quand je suis entré dans la chambre, ce monsieur tenait la main de Monsieur Canaby et lui prenait le pouls. Un peu comme quelqu'un qui s'intéresse au phénomène de la maladie. Alors qu'il n'est pas médecin.
Vérifiait-il que le poison faisait son effet? Pour lui-même? Ou pour le compte de son amie Henriette? Quoi qu'il en soit, dans sa clinique, Émile Canaby va beaucoup mieux. Il est peut-être temps de l'interroger. Soupçonne-t-il quelqu'un d'avoir voulu l'empoisonner? Sa femme Henriette, par exemple.
Ce sont des calomnies. Henriette n'y est pour rien. Et notre ami Pierre Rabot non plus, puisque j'ai appris que vous le soupçonniez. Il n'y a pas de problème entre vous et votre épouse. Enfin, nous sommes mariés depuis 18 ans. Et je puis vous dire que l'harmonie règne dans notre ménage et que notre vie commune est sans nuage.
Là-dessus, le père d'Henriette reçoit une lettre anonyme et une deuxième 2 jours plus tard. Un corbeau qui s'accuse d'avoir envoyé les fausses ordonnances. Je m'excuse pour les désagréments engendrés auprès de Madame Henriette Canaby et affirme avoir agi dans le seul but de compromettre le docteur Gaube avec lequel j'avais un compte à régler. Il rend bien service à Henriette, ce corbeau. Il lui rend plus service, en tout cas, que Julie Lalanne, l'une de ses bonnes. Tout ce que je peux dire, c'est que quand madame lui a servi son chocolat le matin où il est tombé malade, monsieur, il a dit que le chocolat avait un goût détestable. Et ça prouve bien qu'il avait été empoisonné, ça.
Et combien de temps après avoir bu ce chocolat,
M. Canaby a-t-il commencé à se sentir mal?
Il est juste après. Et là, j'ai pas bien compris, parce que plutôt que d'appeler tout de suite le docteur, madame, elle a fait venir M. Rabot.
Pourquoi qu'elle a pas fait venir le docteur d'abord?
Ça,
je sais pas, hein.
La même domestique fait part de ses doutes concernant les multiples ordonnances de liqueur de Fowler qu'elle a été amenée à aller retirer en pharmacie pour le compte de sa maîtresse.
Une fois, je lui ai dit « Comment ça se fait qu'il faut que je cherche un autre flacon de liqueur de Fowler alors que je vous en ai déjà pris il y a quelques jours ?» Elle m'a dit que c'est Madame Canaby-mère qui l'avait renversé. Je ne l'ai pas cru. Et en plus, elle m'a demandé de ne pas en parler, Madame Canaby-mère. Moi, je crois que la vérité, c'est qu'elle a tellement utilisé de liqueur pour empoisonner Monsieur Canaby qu'elle n'en avait plus.
Bref, la domestique pense que sa maîtresse a empoisonné son mari. En attendant peut-être plus, après 4 mois d'instruction, Henriette Canaby est mise en examen pour faux et usage de faux, autrement dit pour les ordonnances. Pour l'empoisonnement, le juge manque encore de preuves, mais il a demandé une expertise chimique à un spécialiste. Il espère que l'expert va l'aider à prouver l'empoisonnement. Et il est un peu déçu.
Nous avons procédé à des analyses chimiques à partir des prélèvements effectués sur M. Canaby, d'ongles, de poils de barbe, de cheveux et d'urine. Et nous n'avons trouvé aucune trace de digitaline ni d'aconitine. Ce qui en soi n'est pas étonnant, ce sont des substances qui sont quasi indétectables.
Ça ne nous aide pas beaucoup, ça, docteur.
Attendez. En revanche, nous avons trouvé un taux relativement élevé d'arsenic dans les cheveux et dans les ongles. Ce qui, à notre sens, pourrait résulter de l'absorption à forte dose, hein, de liqueur de Fowler.
Donc, l'hypothèse de l'empoisonnement à l'arsenic reste ouverte. À côté de ça, le juge a missionné un médecin légiste, le docteur Land, qui est allé voir Émile Canaby à la clinique où il est en train de se remettre.
Oh, il souffre actuellement de polynévrite, hein? Ce qui peut survenir après certains empoisonnements, mais aussi après une maladie infectieuse.
Donc vous ne pouvez pas conclure qu'il y a eu empoisonnement.
Et de même concernant l'arsenic, hein, on a certes détecté des taux anormalement élevés d'arsenic, 40 mg par kilo dans les cheveux et 25 mg par kilo dans la barbe. Mais sachant que M. Canaby avait pour habitude de consommer régulièrement de la liqueur de Fowler à petite dose, on ne peut pas assurer qu'il a été victime d'une intoxication à l'arsenic.
Et pour la digitaline et la conitine?
Je ne pense pas que M. Canaby en ait ingéré. L'emploi de ces médicaments, principalement la conitine, aurait conduit à la mort, à coup sûr.
Autrement dit, docteur, vous concluez que nous n'avons pas de preuves de l'empoisonnement.
En notre âme et conscience, monsieur le juge, effectivement, nous ne pouvons pas conclure cela.
Le juge est bien embêté. Oui, Henriette a fait de fausses ordonnances. Des experts en écriture viennent de dire que c'est elle qui les a écrites. Comme c'est elle, à coup sûr, qui a écrit les lettres du corbeau. Mais pour l'instant, il n'a aucune preuve qu'elle a empoisonné son mari. Si ça continue, il ne va pas pouvoir l'inculper pour empoisonnement.
D'autant que face à lui, Henriette ne lâche rien. Ni sur les fausses ordonnances, ni encore moins sur l'empoisonnement.
Je n'ai pas fait de fausses ordonnances. Quoi qu'en disent vos experts. Je ne connaissais pas l'écriture du docteur Gob, ni sa signature. Je ne pouvais pas chercher à l'imiter.
Mais enfin, madame, nous avons trouvé chez vous des cartes postales que le docteur Gob vous a envoyées une fois qu'il était en vacances. Vous connaissiez donc son écriture.
Mais ces cartes n'ont fait que passer sous mes yeux. Je ne me suis pas intéressé à l'écriture.
Il n'empêche que je suis fondé à penser que vous avez rédigé ces ordonnances dans un but criminel, madame.
Mais il me semble que mon passé plaide pour moi. Je suis une honnête femme.
La liqueur de Fowler. Vous dites qu'il vous arrive d'en consommer vous-même. Et votre mari aussi, à des doses infinitésimales. Je vais demander à un expert de procéder à des analyses sur vos propres cheveux.
L'expert lui prélève donc une mèche de cheveux et ses conclusions, pour le coup, réjouissent le juge.
On ne trouve dans les cheveux de Madame Canapi qu'une dose extrêmement faible d'arsenic, de l'ordre de 2 mg par kilo. Son mari, en revanche, présente un taux d'arsenic 40 fois supérieur au sien.
Est-ce que ça n'est pas la preuve qu'elle a fait absorber à son mari des flacons entiers de liqueur de Fowler? Sur cette base, le juge la met en examen pour empoisonnement. Et il l'envoie en prison. Madame Canapi, une bourgeoise des Chartrons. Il est courageux, ce juge. Mais va-t-il être suivi par la cour d'assises? Le procès d'Henriette Canapi s'ouvre en mai 1906 devant la cour d'assises de Gironde. Comme toujours dans ces années-là, il y a beaucoup de monde sur les bancs, et notamment l'illustre écrivain bordelais François Mauriac, qui va tirer de cette histoire l'un de ses livres les plus célèbres, Thérèse d'Escaut. Henriette entre dans le box en larmes, couvrant son visage d'un mouchoir. Il y a aussi des journalistes parisiens. L'affaire est intéressante. Une bourgeoise de 39 ans, mariée depuis 20 ans, excellente mère de famille, accusée d'avoir tenté d'empoisonner son mari. Émile Canapi, le rescapé, s'avance à la barre. Il est venu avec leurs deux filles, de 14 et 15 ans.
N'avez-vous pas pris ce matin-là un chocolat dont vous vous êtes plaint à la bonne?
Non, je ne me suis pas plaint. La bonne a menti.
Alors de quoi résulte la paralysie qui vous a affecté pendant des mois?
Une simple fatigue.
Et l'arsenic trouvé dans vos cheveux?
Une conséquence de mon habitude à prendre de la liqueur de Fowler.
Il est victime et il dédouane sa femme. Tout comme sa mère, d'ailleurs.
Les accusations portées contre ma belle-fille sont tout à fait fausses.
Idem dans la bouche du père d'Henriette.
Les lettres et les fausses ordonnances n'ont rien de l'écriture de ma fille.
Puis viennent les médecins qui ont soigné Émile Canapi. On attend beaucoup d'eux.
Je ne peux rien dire au regard du secret professionnel. Je vous demande, docteur, de lever le secret.
Je ne peux pas le faire, enfin, c'est un secret absolu.
Mais peu importe, le président maintient qu'Henriette a empoisonné Émile.
Il n'y a certes pas de digitaline et d'aconitine dans le corps de M. Canapi, mais enfin, il a vomi.
C'est une explication. Je crois, madame, que vous avez empoisonné votre mari d'abord avec la liqueur de Fowler et que sans résultat, vous lui avez fait ingérer les autres médicaments dont il serait mort s'il n'avait pas vomi.
C'est ce qu'on appelle un président neutre.
Le procureur se lève. Monsieur Canabi nous dit que sa femme n'est coupable de rien, car il ne veut pas que ses enfants soient les filles d'une empoisonneuse. Mais il y a ces énormes quantités d'arsenic relevées par les experts et les ordonnances qui ont permis l'acquisition des poisons sont la preuve absolue d'un crime prémédité. Un verdict d'acquittement serait un verdict de défaillance.
Et enfin, Maître Peyrencave, l'avocat d'Henriette, se lève.
Quand un chef de famille qu'on nous présente comme la victime d'un crime vient vous dire qu'il ne croit pas au crime et que sa femme est innocente, est-ce votre droit d'avoir une autre conception de son intérêt? Il va de soi que vous acquitterez ma cliente.
Et elle est acquittée de l'empoisonnement. Elle n'est condamnée qu'à 15 mois de prison et 100 francs d'amende pour les fausses ordonnances. Ah, un détail intéressant. Juste après sa sortie de prison, elle et son mari se séparent. Est-ce que ça n'est pas le signe qu'il la croit finalement coupable?
J'ai tiré cette histoire du livre d'Annick Ledouget, « Deux empoisonneuses bordelaises » aux éditions La Geste. Elle est l'auteur d'autres livres que vous trouverez sur son site annick.ledouget.fr.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.